Et national, le règlement stipule simplement que le poste doit revenir à un élu d'un groupe d'opposition. Oui, mais lequel ? Le Rassemblement national, fort de ses 89 députés, estime que c'est son candidat, Philippe Tanguy, qui devrait être désigné. Mais c'est l'insoumis Éric Coquerel qui fait figure de...
Radio G, 101.5 FM. Retrouvez dans un instant Tout compte fait. L'émission qui fait la part belle au compte sur Radio G. Bienvenue dans Tout compte fait, l'émission qui fait la part belle au compte sur Radio G. 30 minutes d'histoire et de musique pour bien commencer la journée. Alors aujourd'hui, on est le jeudi 30 juin et c'est la dernière émission de cette saison radiophonique. Et oui, le temps passe vite. Je vous propose donc un florilège des contes et des musiques diffusées tout au long de cette année. Il a donc fallu faire un choix parmi la soixantaine d'histoires racontées et la cinquantaine de morceaux qui les accompagnaient. Et j'en ai sélectionné donc une douzaine, glanées tout au long de la saison, pour revivre ensemble ces instants partagés, soit via la bande FM sur Angers et ses environs au 101.5, soit grâce au podcast disponible à foison sur le site internet de Radio G. Alors vous y retrouverez notamment la voix de Flora, compagnonne des débuts de l'émission. Allez, je n'en dis pas plus, je vous laisse le plaisir de la découverte ou de la redécouverte de ce qui a été diffusé à l'antenne tout au long de l'année et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous en fin d'émission.
Tout compte fait.
À chaque grain de sable, une histoire s'éveille. À chaque pas de chameau, une étoile naît. À chaque retour... Un mensonge brûle les lèvres. Ainsi va la vie, ainsi va le temps.
Tout compte fait.
Madame Tortue avait invité des amis à dîner. Tout en s'affairant devant son fourneau, elle dit à son mari « Sois gentil, Tortunet. Cours à la boulangerie chercher les petits pains que j'ai commandés.
Bon, je n'ai jamais couru de ma vie. Mais je veux bien y aller, hein, à condition que tu ne me bouscules pas. »
Mais personne ne te bouscule. Mais vas-y tout de suite, hein, nos invités vont arriver.
Bon, bon, on y va.
Madame Tortue mit la table, prépara les hors-d'œuvre, donna un coup d'œil au rôti dans le four et regarda l'heure.
Oh, ce Tortunet, quel lambin quand même. Voilà une heure qu'il est parti et la boulangerie est à deux pas.
Les invités arrivaient. Madame Tortue s'excusa de l'absence de son mari.
« Il est juste sorti chercher le pain. Il sera là dans une minute. »
On prit l'apéritif en bavardant. Madame Tortue regarda sa montre. Elle regarda ses invités. Il devait avoir faim. La conversation languissait. Et elle dit
« Bon, bah passons à table, hein, chers amis. Hein. Comme dit le proverbe, ce n'est pas aux plusieurs d'attendre le tout seul. » Tant pis pour monsieur mon mari.
On mangea les hors-d'œuvre sans pain. Ennuyeux, mais enfin, ça laisse de l'appétit pour le plat de résistance. Madame Tortue regarda furtivement l'heure.
Oh, ça fait 3 heures qu'il est parti.
Et elle servit la suite. On mangea le poisson sans pain. Pas très grave. Madame Tortue regarda l'heure, soupira et servit le rôti.
On peut manger le rôti sans pain, mais on perd beaucoup de sauce et c'est dommage. Celle-là était justement excellente.
Madame Tortue, sans regarder l'heure, servit le fromage. Alors ça, c'était franchement ennuyeux. Parce que du fromage sans pain, on n'a jamais vu ça. Eh bien là, on l'a vu. La suite du repas ne posait pas de problème. Glace, petit four, fruits, ça ne demande pas de pain.
café, les invités rassasiés et mis en belle humeur par un repas parfait, malgré le fromage sans pain, se permirent quelques plaisanteries sur l'absence prolongée du maître de la maison. Vous savez comme il est, chers amis. Il traîne, il n'en finit pas. J'ai beau le secouer, hein, ça ne sert à rien. Hein. Mais attendez seulement qu'il soit rentré et je m'en vais lui dire ma façon de penser, hein, et devant vous tous. Et c'est alors que de la porte de service, on entendit « Oh, arrête, veux-tu ? Si tu me bouscules comme ça, ben je n'arriverai jamais à m'habiller pour aller les chercher, hein, tes petits pains. »
Sa poêle dure pour laver mes oreilles, la pierre pousse pour mes pieds et mes jolis orteils, la lotion pour ma barbe et pour mes belles moustaches, mon sirop de pistache. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain, on fait des grosses bulles en jumeau sous-marin. Ah, ce qu'on est bien quand on est dans son bain, on chante sous la mousse pour les voisins. Frotte-moi bien. Passe-moi le gant de crin et les algues marines, les ciseaux pour couper les poils de mes narines. Mais voilà le savon qui me glisse les mains. Où est-il, non, la chien? Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins. Passe-moi la serviette, mon peignoir japonais, pilonné, trompette. Pourquoi j'en sortirais? Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Ah, qu'on est bien quand on est dans son bain. On chante sous la mousse pour les voisins.
C'est l'histoire d'une grand-mère. Elle était en train de balayer la cour de sa petite maison lorsqu'elle trouva un sou. Elle se dit, elle qui n'avait jamais vu d'argent, « Qu'est-ce que je vais faire avec cette fortune ?» Elle avait tourné dans la cour 3 fois lorsque son regard croisa le vieux balai. Elle se dit, « Tiens, je vais acheter un nouveau balai !» Elle courut chez le marchand de balai. En arrivant dans la boutique, elle lui demanda, « Marchand de balai !» « Vendez-moi un balai pour un sou !» Et le marchand de balai lui dit, « Vous n'y pensez pas, grand-mère, ça coûte 7 000 sous. Pour un sou, je ne peux même pas vous donner un seul poil de balai. » Alors la grand-mère se dit, « Qu'est-ce que je vais faire avec mon sou ? Je vais acheter un gâteau pour ma petite fille. » Ainsi, en rentrant de l'école, elle le trouvera pour son goûter. Alors elle s'en alla chez le pâtissier. En arrivant, elle lui demanda, « Pâtissier, vendez-moi un gâteau pour un sou. » Et il lui répondit, « Vous n'y pensez pas, grand-mère. Un gâteau, ça coûte 400 sous. » Alors la grand-mère se demanda ce qu'elle allait faire avec un sou. Elle se dit, « Tiens, je vais acheter un bonbon pour ma petite fille. » Elle courut chez l'épicier et lui demanda, « Épicier, vendez-moi un bonbon pour un sou. » Mais l'épicier lui dit, « Vous n'y pensez pas, grand-mère. Un bonbon, ça coûte 4 sous. » Mais la grand-mère insista tellement que l'épicier lui dit « Pour un sou, je peux vous vendre un quart de bonbon. » La grand-mère lui dit « Alors vendez-moi un quart de bonbon. » L'épicier prit son grand marteau, frappa le bonbon et le partagea en quatre parts. Il mit un quart de bonbon sur un bout de papier et lui dit « Voilà grand-mère, un quart de bonbon pour un sou. » La grand-mère, toute heureuse, prit le bout de bonbon sur le bout de papier et rentra à sa maison par le plus court des chemins. En arrivant, elle cacha le bout de bonbon avec le bout de papier sur une étagère de la cuisine et elle se remit à balayer en espérant trouver un deuxième sou, mais en vain. Elle ne trouva rien. Et lorsque sa petite fille rentra de l'école, elle lui dit « Cours vite à la cuisine, je t'ai acheté un bonbon pour un sou !» La petite fille courut à la cuisine, mais elle ne trouva rien, rien qu'un bout de papier, car une mouche était passée par là. Et la goinfre, elle avait tout avalé. La grand-mère en colère prit sa petite fille par la main, courut au tribunal en se disant « Je ne laisserai pas passer cette offense. Je demanderai au juge de mettre la mouche en prison. » En arrivant au tribunal, la grand-mère trouva le juge en train de ranger ses dossiers dans son attaché-case. Elle se rapprocha de lui en le suppliant. « Juge, juge, grand juge, rendez-moi justice. Il y a une mouche qui a mangé le bonbon de ma petite fille. Je voudrais que vous la mettiez en prison. » Et le juge, interloqué, dit à la grand-mère. « Ta mouche ? Si tu veux que je la mette en prison, attrape-la d'abord. » « Comment l'attraper ?» demanda la grand-mère. « Elle vole trop vite pour moi qui ne suis qu'une grand-mère. » Et le juge, qui voulait se débarrasser de la grand-mère et de son affaire, lui dit « Tu vois, au fond de la salle, il y a un bâton. Je te le donne. Si tu vois la mouche, donne-lui un grand coup sur la tête. Ramène-la et je la mettrai en prison. » La grand-mère alla chercher le bâton, puis revient vers le juge pour le remercier. « Mais bonheur ! Qu'est-ce qu'elle vit sur le nez du juge ?» Une grosse mouche. Elle leva son bâton en criant au juge « Soyez gentil, ne bougez pas, monsieur le juge, que je ne la rate pas !» Le juge essaya d'esquiver, mais la grand-mère le frappa de son bâton. Elle assomma le juge, mais elle rata la mouche.
Spock. Hey, vous me reconnaissez ? Ah, c'est moi !
Tout compte fait.
Un Martégal, un habitant de Martigues, venait tous les jours à Marseille pour des affaires qu'il avait. Et tous les soirs, quand il était de retour au Martigues, ses voisins lui venaient. « Eh bien, Génésie, qu'y a-t-il de neuf à Marseille ?» Et le bon Génésie racontait de fil en couture tout ce qui était arrivé de neuf dans la capitale du Midi. Un jour, sur tous les autres, le Génésie, n'ayant rien à dire de neuf à ses finaux de compatriotes, et s'attendant pourtant, comme toujours, à la question ordinaire, « Ah, pour cette fois, se dit-il en lui-même, il faut que je leur en fasse péter une à ces nigauds, une, ma foi de Dieu, qui fume. Et c'était bien ce qu'il comptait faire. Il arrive au Martigues sur le soir, et du plus loin qu'il le voit, « Eh bien, Génésie, qu'y a-t-il de neuf à Marseille ?» lui crient les Martigots. « Ah, mes pauvres !» fait Génésie. « Je vais vous en dire une aujourd'hui qui peut compter pour deux, hein. Ah, mais bon, voyez-vous, si je ne l'avais vue, le diable m'emporte si je l'aurais crue. » Et aussitôt, comme si le trompetteur public avait passé par la ville, tout le monde, femmes, hommes, enfants et vieillards, se rangent à son entour, et le raconteur de nouvelles entame alors le récit qu'il avait médité. Et vous saurez, Martégo, vous saurez que ce matin, en rade de Marseille, est arrivé un poisson, mais un poisson si colossal, si vigoureux et si long, que la tête est amarrée dans le port et la queue va toucher le château d'If. Oui, oh, vous le croirez ou non, hein. Ce poisson prodigieux à la tête prise entre le fort Saint-Jean et le fort Saint-Nicolas. Et tout Marseille est monté là-haut à Notre-Dame de la Garde, voulant voir comment feront les pêcheurs pour le sortir de là. Les Martégaux, les pauvres, le crurent comme du miel, et sans délibérer, allons, zou, partons, et sans songer qu'il allait être nuit, femmes, hommes, filles, vieillards, enfants, tous partent pour Marseille, comme s'ils allaient à la noce. Génésie, lui, le fin tireur de bourde, était sur une hauteur qui le regardait passer en se tordant de rire. Voyant pourtant que tout le monde y allait, sauf les malades, il se dit oh, « Trop non d'un larron oh, si tout le Martigues y file, et faut-il que ce soit vrai ?» Et aussitôt, nouant les courroies de ses souliers, il se met à courir tant qu'il peut pour attraper les autres et marcher avec eux sur Marseille.
Coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Je sais bien l'année prochaine, tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant, je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le Mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jours d'été, tous les ennuis oubliés. Nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée. De la plage ensoleillée. De la plage ensoleillée.
Le chat et le vieux rat. J'ai lu, chez un conteur de fables, qu'un second rodillard, l'Alexandre des chats, l'Attila, le fléau des rats, rendait ces derniers misérables. J'ai lu, dis-je, en certain auteur, que ce chat exterminateur, vrai Cerbère, était craint une lieue à la ronde. Il voulait de souris dépeupler tout le monde. Les planches qu'on suspend sur un léger appui, la mort au rat, les souricières n'étaient que jeu au prix de lui. Comme il voit que dans leur tanière les souris étaient prisonnières, qu'elles n'osaient sortir, qu'il avait beau chercher, le galant fait le mort et du haut d'un plancher se pend la tête en bas. La bête scélérate à de certains cordons se tenait par la patte. Le peuple des souris croit que c'est châtiment qu'il a fait un larcin de rôt ou de fromage, égratigné quelqu'un, causé quelques dommages, enfin qu'on a pendu le mauvais garnement. Toutes, dis-je, unanimement, se promettent de rire à son enterrement, mettent le nez à l'air, montrent un peu la tête, puis rentrent dans leur nid à rats, puis ressortant, font quatre pas, puis enfin se mettent en quête. Mais voici bien une autre fête. Le pendu ressuscite, et sur ses pieds tombant, attrape les plus paresseuses. « Ah, nous en savons plus d'un !» dit-il en les gobant. « Oh, ces tours de vieille guerre et vos cavernes creuses ne vous sauveront pas, je vous en avertis. Vous viendrez toutes au logis. » Il prophétisait vrai. Notre maître Mitis, pour la seconde fois, les trompe et les affine, blanchit sa robe et s'enfarine, et de la sorte déguisé se niche et se blottit dans une huche ouverte. Ah, ce fut à lui bien avisé. La jante trotte-menue s'en vient chercher sa perte. Un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour. C'était un vieux routier, il savait plus d'un tour, même il avait perdu sa queue à la bataille. « Ce bloc en farine et ne me dit rien qui vaille !» s'écria-t-il de loin au général des chats. « Je soupçonne dessous encore quelques machines. Rien ne te sert d'être farine, car quand tu serais sac, je n'approcherai pas. » C'était bien dit à lui. J'approuve sa prudence. Il était expérimenté et savait que la méfiance est mère de la sûreté.
Moi vouloir être un chat, m'en frotter contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être un chat, tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les gouttières mais comme bulle de litière, mais toujours rester à toi. Prendre des minchafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être un chat, et
peine risquée de tes doigts quand le cœur reste sur moi. Moi vouloir être un chat quand dehors il fait froid, attendre mon repas tapis au creux de tes draps. Si un jour tu préfères à mes félines caresses les cannes d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi, et la souris ce sera toi. Et la souris ce sera toi. Et la souris ce sera
Garçon, garçon, l'addition, s'il vous plaît. Voilà, voilà. Alors, vous avez deux œufs durs, un veau, un petit pois, une asperge, un fromage avec beurre, une amande verte, un café filtre, un téléphone. Oui, oui, et puis des cigarettes. Ah oui, c'est ça. C'est ça, des cigarettes. Alors, ça fait... Oh, mais n'insistez pas, mon ami. C'est inutile. Vous ne réussirez jamais. Pardon ? On ne vous a donc pas appris à l'école que c'est mathématiquement impossible d'additionner des choses d'espèces différentes ? Je ne comprends pas. Bon enfin, tout de même, de qui se moque-t-on ? Il faut réellement être insensé pour oser essayer de tenter d'additionner un veau avec des cigarettes avec un café filtre avec une amande verte, et des œufs durs avec des petits pois. Des petits pois avec un téléphone, et pourquoi pas un petit pois avec un grand officier de la Légion d'honneur pendant que vous y êtes. Non, mon ami, croyez-moi, n'insistez pas, ne vous fatiguez pas, ça ne donnerait rien, vous entendez ? Rien, absolument rien. Pas même le pourboire. Et il sort en emportant le rond de serviette à titre gracieux. Tout compte fait, c'est fini pour cette année. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Je profite du micro pour remercier tous ceux qui ont suivi l'émission tout au long de cette année. Sachez que c'était un grand plaisir pour moi de préparer les émissions, d'enregistrer pour vous des histoires glanées dans mes livres et aussi dans les livres de la bibliothèque. Voilà, un grand merci aussi à toute l'équipe salariée, Pierre Benoît, Julien, Fahadi. Merci pour vos conseils techniques, l'appui logistique, le soutien tout au long de cette saison radiophonique. C'était une première pour moi. Je remercie également les membres du bureau d'association pour m'avoir donné la chance de faire de la radio. Et puis j'espère avoir en tout cas l'occasion de reprendre le micro dans un futur et de pouvoir vous faire partager de nouveau des histoires ou de la musique, que sais-je, l'avenir nous le dira. Allez, je vous laisse et je souhaite longue vie à Radio G. Passez un bel été. Au revoir.